Chapitre 9. Sur Trentor. Un ciel en friche. Telle fut leur première impression lorsqu'ils contemplèrent le ciel nocturne. Les étoiles, ici, étaient aussi denses que les mauvaises herbes dans un terrain vague. Et pour la première fois, Leighton Devers s'aperçut qu'il ne pouvait se dispenser de tenir compte des chiffres à droite de la décimale pour calculer correctement son trajet à travers l'hyperespace. D'être ainsi obligé de réduire les sauts à moins d'une année-lumière engendrait chez lui une sensation de claustrophobie indéniable. Le ciel qui brillait à l'infini dans toutes les directions avec un éclat d'une dureté inédite avait quelque chose d'effrayant. Il en résultait l'impression pénible d'être perdu au sein d'une mer de radiation. Et, au centre d'un amas gigantesque de 10 000 étoiles dont l'éclat déchirait sans merci les ténèbres environnantes, gravitait la masse formidable de la planète impériale. Trentor. Mais Trentor n'était pas qu'une planète. Trentor était le cœur vivant d'un empire de 20 millions de systèmes stellaires. Cette planète n'avait qu'une seule fonction, administrer. Elle n'avait qu'un seul but, gouverner. Elle ne produisait qu'une seule chose, la loi. Trentor était une gigantesque aberration fonctionnelle, tout entière tournée vers un seul et même objectif. Il n'y avait d'autres créatures vivantes à sa surface que l'homme, ses animaux favoris et ses parasites. En dehors des quelques centaines de kilomètres carrés du palais impérial, pas la moindre parcelle de terre nue n'était visible, pas le moindre brin d'herbe. Il n'y avait pas d'eau sur Trentor, en dehors des jardins du palais, si l'on excepte les immenses citernes souterraines qui contenaient à elles seules les réserves de toute une planète. Sur la chape de métal lisse, étincelante, indestructible, incorruptible qui recouvrait la planète tout entière, se dressait un réseau inextricable de structures métalliques gigantesques. Des rampes sans nombre reliaient entre eux ces édifices titanesques parcourus de corridors, garnis de cubibox à usage administratif, occupés à la base par d'immenses centres commerciaux qui couvraient des kilomètres carrés et couronnés à leur fête par le monde du plaisir qui, chaque nuit, illuminait les ténèbres. On pouvait faire le tour de Trentor sans jamais sortir de cette structure tentaculaire, de cet édifice qui n'en finissait pas de s'étendre, sans jamais voir la ville de l'extérieur. Une flotte de vaisseaux, plus nombreux que tous les vaisseaux de guerre que l'Empire avait jamais armés au cours de son histoire, déchargeait chaque jour leur cargaison sur Trentor pour nourrir les 40 milliards d'êtres humains qui se contentaient en échange de démêler les myriades d'intrigues bureaucratiques qui venaient trouver leur solution dans l'administration centrale du gouvernement le plus complexe que l'humanité eût jamais connu. 20 mondes agricoles servaient exclusivement à ravitailler Trentor. Un univers tout entier était à son service. Solidement maintenu de chaque côté par des bras métalliques, le vaisseau marchand fut lentement descendu le long de l'énorme rampe qui menait au hangar. Déjà, Devers avait dû se prêter, en maugréant, aux innombrables complications d'un monde conçu dans la paperasserie et dédié au principe du formulaire en 4 exemplaires. Il y avait eu tout d'abord un arrêt forcé, en plein espace, au cours duquel il leur avait fallu remplir un questionnaire, le premier d'une longue, très longue série. On les avait ensuite soumis à des interrogatoires sans nombre, suivis d'autant de contre-interrogatoires, puis, comme tout nouvel arrivant sur Trentor, ils avaient subi l'examen de routine, la sonde simple. On avait photographié leur engin, on les avait tous deux soumis à une analyse caractérielle, dûment enregistrée, on les avait fouillés afin de s'assurer qu'ils ne transportaient aucun article de contrebande, on leur avait fait payer la taxe d'entrée obligatoire, puis pour finir, il leur avait fallu régler le problème des cartes d'identité et du visa du visiteur. Dukembar était siwénien et sujet de Sa Majesté l'Empereur, mais Leighton Devers était un inconnu qui ne possédait pas les documents exigés. Le fonctionnaire de service se déclara profondément navré de devoir le leur apprendre, mais Devers ne pouvait pas pénétrer sur Trantor. En fait, il allait être retenu afin de faire l'objet d'une enquête officielle. Une centaine de crédits en beaux billets flambant neufs garantis sur les domaines du seigneur Brodrig firent alors leur apparition comme par magie et changèrent discrètement de propriétaire presque aussitôt. Le fonctionnaire hocha la tête d'un air important et la profondeur de sa tristesse s'en trouva singulièrement atténuée. Un nouveau formulaire fit son apparition dans le casier approprié. Dûment rempli et tamponné, il comporta bientôt, dans les cases prévues à cet effet, tout renseignement relatif à la personne du susnommé Devers. Le marchand et le patricien purent alors faire leur premier pas officiel sur Trantor. Dans le hangar, le vaisseau marchand ne fut plus alors qu'un appareil parmi tant d'autres qu'il allait falloir entreposer, photographier, enregistrer, dont on devrait inventorier le contenu, reproduire les cartes d'identité des passagers, toutes opérations pour lesquelles une somme appropriée fut naturellement perçue, enregistrée et comptabilisée. Puis, Devers se retrouva sans trop savoir comment au beau milieu d'une vaste terrasse sous la lumière crue de l'immense soleil blanc. Il y avait là des femmes qui bavardaient, des enfants qui jouaient en se chamaillant, et des hommes qui sirotaient leur consommation d'un air alangui, installés devant les énormes téléviseurs qui clamaient les nouvelles de l'Empire. Barr, qui venait d'apercevoir une pile de journaux à la vente, se mit en devoir de s'acquitter de la somme idoine qu'il régla en pièces d'iridium sonnantes et trébuchantes, et il put emporter par-devers lui l'exemplaire du journal qui se trouvait tout au sommet de la pile en question, comme le voulait l'usage. Il s'agissait en l'occurrence des Nouvelles impériales de Trantor, l'organe officiel du gouvernement. Au fond de la salle d'information, on entendait un doux cliquettement qui signifiait que les nouvelles éditions étaient en train de s'imprimer par synchronisme à longue distance. Cela grâce aux machines des bureaux des Nouvelles impériales distantes de 16 000 km par les couloirs, moins de 10 000 à vol d'aérojet, tout comme 10 millions d'exemplaires étaient imprimés de la même façon, au même moment, dans 10 millions d'autres salles d'information réparties sur toute la surface de la planète. Barr jeta un coup d'œil au gros titre et dit doucement « Par où allons-nous commencer ?» Devers essaya de se secouer. Il se trouvait dans un univers bien éloigné du sien, sur un monde dont la complexité lui pesait, parmi des gens dont les agissements étaient incompréhensibles et le langage presque autant. Les tours métalliques étincelantes qui l'entouraient, s'élevaient sans fin par-delà l'horizon, l'oppressaient. Toute cette agitation, la vie effrénée et impitoyable qu'on menait sur ce monde métropole, le plongeait dans une profonde mélancolie, née de son isolement et du sentiment de sa petitesse. « Père la science, à partir de maintenant, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse l'initiative. » finit-il par avouer. Barr s'exprima alors d'un ton calme, sans élever la voix.
J'ai essayé de vous le dire, mais c'est difficile à croire tant qu'on ne l'a pas vu. Savez-vous combien de gens veulent voir l'empereur tous les jours? Environ 1 million. Savez-vous combien il envoie? 10 000. Nous allons être obligés de passer par la voie administrative. Et cela ne va pas nous faciliter les choses, croyez-moi. Mais les fonctionnaires sont notre seul recours. Nous n'avons pas les moyens d'utiliser l'aristocratie. Nous avons pas loin de 100 000 crédits. Un père de l'Empire nous coûterait cela à lui tout seul. Et il nous en faudrait au moins 3 ou 4 comme cela pour arriver jusqu'à l'Empereur. Il nous faudra peut-être acheter 50 présidents de commission et autant de responsables en chef pour arriver au même résultat. Mais ils ne nous coûteront qu'une 100aine de crédits chacun, peut-être. Je me chargerai des négociations, si vous voulez bien. Tout d'abord, ils ne comprendraient pas votre accent, et ensuite, vous n'avez jamais pratiqué le noble art de la corruption impériale, car c'en est un, je peux vous l'assurer. Ah, voilà.
Il venait de trouver à la 3e page des Nouvelles impériales ce qu'il cherchait. Et il passa le journal à Devers. Devers lut lentement. Le vocabulaire ne lui était pas familier, mais il comprit l'article dans ses grandes lignes. Il releva la tête, visiblement préoccupé. Du revers de la main, il frappa rageusement le journal.
Vous croyez qu'on peut se fier à ça ?
Dans une certaine mesure.
Oui, répondit tranquillement Barr. Il est très improbable que la flotte de la Fondation ait été anéantie. C'est une nouvelle qu'ils ont sans doute annoncée plusieurs fois déjà. S'ils utilisent la technique habituelle des communiqués de guerre publiés à partir d'une capitale fort éloignée du théâtre des opérations. Mais cela signifie quand même que Rios a remporté une autre victoire, ce qui n'a rien de très étonnant si on y réfléchit. Le communiqué indique qu'il s'est emparé de Loris. Est-ce la planète capitale du royaume de Loris ?
Oui, dit Devers d'un ton maussade. Ou plutôt, de l'ex-royaume de Loris, désormais. Et la zone en question ne se trouve même pas à 20 parsecs de la Fondation.
Père la science. Il va falloir faire vite.
C'est une notion qui n'a pas cours sur Trentor, dit Barr en haussant les épaules.
Essayez. Vous verrez. Vous aurez toutes les chances de vous retrouver du mauvais côté d'un désintégrateur atomique.
Il va falloir combien de temps, alors ?
Un mois, avec de la chance.
Un mois, sans oublier surtout nos 100 000 crédits. En admettant que cela suffise, et à condition que l'empereur ne se mette pas en tête entre-temps de s'embarquer pour les planètes estivales où il est de notoriété publique qu'il n'accorde aucune audience.
Mais la Fondation ?
La Fondation se débrouillera très bien sans nous, comme elle a su le faire jusqu'à présent.
Venez, il faut dîner maintenant, j'ai faim. Ensuite la soirée est à nous, autant la mettre à profit.
Jamais plus nous ne reverrons Trentor ni un monde comme celui-là, vous savez.
Le commissaire aux provinces extérieures signifia son impuissance à ses interlocuteurs en ouvrant largement ses petites mains potelées. Puis, il considéra les deux hommes de ses yeux de myope qui lui donnaient l'air et les manières d'une chouette.
« Mais l'empereur est souffrant, messieurs, il est vraiment inutile de porter l'affaire à mon supérieur. » Sa Majesté impériale ne reçoit personne depuis une semaine.
« Il nous recevra, » lui assura Barr. Il s'agit simplement de joindre un membre du cabinet du secrétaire particulier.
« Impossible !»
dit catégoriquement le commissaire.
« Cela me coûterait ma situation que de tenter pareille démarche. Si vous pouviez être un peu plus explicite à propos de la nature de votre affaire, « je ne demande pas mieux que de vous aider, vous comprenez, mais il me faut naturellement quelque chose de plus concret, quelque chose que je puisse présenter à mon supérieur et qui constitue à ses yeux une raison valable de donner une suite à cette affaire. »«
Si l'affaire qui m'amène pouvait être expliquée autrement qu'à la plus haute instance, »
fit Barr d'un ton suave, « elle ne mériterait pas que je sollicite une audience de Sa Majesté impériale. »
Je propose que vous preniez le risque. Je me permettrai de vous rappeler que, si Sa Majesté impériale attache à notre affaire l'importance que nous vous garantissons, vous ne manquerez pas de recevoir les félicitations que vous méritez pour nous avoir aidés quand vous le pouviez.
Oui, mais...
Le commissaire haussa les épaules sans ajouter un mot.
C'est un risque à prendre, reconnut Barr.
« Naturellement, un risque doit avoir ses compensations. C'est une assez grande faveur que je vous demande, mais nous vous sommes déjà très reconnaissants de la bonté dont vous avez fait montre en nous offrant cette possibilité d'exposer notre problème. Mais si vous nous permettiez d'exprimer simplement notre gratitude en... » Devers eut une grimace de mépris. Depuis un mois, il avait entendu, à peu de choses près, 20 fois le même discours. Cela se terminait invariablement par un échange furtif de billets. Mais l'épilogue, cette fois, fut différent. D'ordinaire, les billets disparaissaient immédiatement. Cette fois, ils demeurèrent bien en vue, tandis que lentement, le commissaire les comptait, les inspectant sur toutes leurs faces. Un changement subtil venait de s'opérer dans le ton de sa voix.
« Garanti par le secrétaire particulier, hein ? C'est du bon argent, dites.
pour en revenir à notre affaire,
reprit Barre. Attendez, dit le commissaire en l'interrompant, pas si vite une chose après l'autre, voulez-vous? J'aimerais vraiment savoir quelle est l'affaire qui vous amène. Cet argent est tout neuf, et vous devez en avoir beaucoup, car je sais que vous avez vu d'autres fonctionnaires avant moi. Allons, voyons. De quoi s'agit-il?
Je ne comprends pas où vous voulez en venir, dit Barre.
Allons, voyons. Il serait très facile de prouver que vous vous trouvez sur cette planète en toute illégalité, puisque la carte d'identité et le permis de séjour de votre silencieux compagnon ne sont assurément pas en règle. Il n'est pas sujet de l'empereur.
J'affirme le contraire.
N'insistez pas,
dit le commissaire d'un ton soudain brutal.
Le fonctionnaire qui a signé ces papiers pour la somme de 100 crédits a avoué, sous la menace. Et nous en savons plus long sur vous que vous ne croyez.
Monsieur, si vous sous-entendez par là que la somme que nous vous avons demandé d'accepter est insuffisante eu égard au risque...
Au contraire, fit le commissaire en souriant, elle est plus que suffisante.
Il lança la liasse qui atterrit sur le coin de son bureau.
Pour en revenir à ce que je disais, l'empereur en personne commence à s'intéresser à votre cas. N'est-il pas vrai, messieurs, que vous avez été récemment les hôtes du général Rios? N'est-il pas vrai que vous avez échappé à son armée avec, disons, une stupéfiante facilité? N'est-il pas vrai que vous possédez une petite fortune en billets garantis sur les domaines du seigneur Brodrigue? Bref, n'est-il pas vrai que vous êtes une paire d'espions et d'assassins envoyés ici pour... Allons, vous allez nous dire vous-même qui vous a payé et pourquoi.
Sachez bien, dit Barre avec une fureur contenue, que je dénie un minable petit commissaire tel que vous le droit de nous accuser de crime. Nous partons.
Vous n'irez nulle part.
Le commissaire se leva. Il n'avait plus du tout l'air myope.
Vous n'avez pas besoin de répondre à la question maintenant. Ce sera pour plus tard et dans des circonstances moins confortables. Et sachez que je ne suis pas commissaire. Je suis lieutenant de la police impériale. Vous êtes en état d'arrestation.
L'instant d'après, il braquait sur eux en souriant un désintégrateur atomique rutilant, visiblement en parfait état de marche.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à être arrêtés aujourd'hui. Des hommes bien plus importants que vous, si vous voulez tout savoir. Nous allons faire le ménage dans ce panier de crabes, c'est moi qui vous le dis.
Devers ricana et porta lentement la main à son propre désintégrateur. Le lieutenant de police fit feu, souriant jusqu'aux oreilles. Le faisceau d'énergie pure frappa Devers en pleine poitrine pour rebondir aussitôt, sans dommage, efficacement repoussé par son champ de force individuel en une gerbe de particules lumineuses. Devers tira à son tour. La tête du lieutenant tomba aussitôt, son torse venant d'être proprement désintégré. Puis elle alla rouler dans une tache de lumière qui n'était pas là quelques secondes auparavant. Un trou béant s'ouvrait désormais dans le mur du plafond du bureau. Devers put ainsi constater que la tête souriait encore. Barre et Devers sortirent par la porte de service.
« Au vaisseau, en vitesse !»
dit Devers d'une voix rauque. « Ils vont déclencher l'alarme d'une seconde à l'autre maintenant. » Furieux, il jura entre ses dents.
« Encore un plan qui a raté. C'est à croire que le démon de l'espace lui-même est contre moi. »
Lorsqu'ils furent en terrain découvert, ils remarquèrent enfin les foules excitées qui se pressaient autour des visicrans géants. Le temps leur était compté désormais. Ils ne s'attardèrent pas à tenter de comprendre les bribes de phrases qu'ils saisissaient au passage. Mais Barre s'empara d'un exemplaire des nouvelles impériales avant de plonger dans le hangar, où le vaisseau s'éleva précipitamment par une gigantesque ouverture encore fumante qu'il venait de pratiquer sans ménagement dans le toit de l'édifice. 10 appareils de la police de l'air se précipitèrent aussitôt à la poursuite du vaisseau des fugitifs, qui venait de décoller au mépris de toutes les instructions de la tour de contrôle et qui semblait maintenant disposé à battre tous les records d'excès de vitesse de la création. Un peu à la traîne, les rapides appareils des services secrets s'élevaient à leur tour, afin de prendre en chasse un vaisseau dont on leur avait donné le signalement précis, piloté par 2 meurtriers déjà identifiés.
« Chaud devant !»
s'écria Devers. « Ça passe ou ça casse !» Et il passa brusquement dans l'hyperespace, à 3 000 km à peine au-dessus de la surface de Trentor. Une telle manœuvre, à une si courte distance d'une masse planétaire d'une telle envergure, eut pour conséquence de plonger aussitôt Barr dans l'inconscience. Quant à Devers, une douleur intense le parcourut de la tête aux pieds. Mais, à quelques années-lumière de là, lorsqu'ils émergèrent dans l'espace normal, la route était à nouveau libre.
Il n'y a pas un appareil impérial capable de me suivre, fit Devers, qui ne manqua pas cette nouvelle occasion d'affirmer toute la confiance qu'il avait en son vaisseau. Puis il ajouta d'un ton plus amer :
Mais nous n'avons plus nulle part où aller maintenant. Et comment lutter quand ils sont si nombreux ? Que faut-il faire ? Que peut-on faire ?
Barr s'agita faiblement sur sa couchette. Il était encore sous l'effet du passage brutal à travers l'hyperespace et chacun de ses muscles était endolori.
« Personne n'a rien à faire, »
dit-il.
« C'est fini. Tenez. »
Il lui tendit le numéro des nouvelles impériales qu'il serrait encore entre ses doigts et le marchand eut au fait de déchiffrer les gros titres. « Rios et Brodrig aux arrêts, » murmura Devers.
Pourquoi ?
Demanda-t-il en regardant Barr avec un étonnement non fin.
L'article ne le dit pas. Mais quelle importance ! La guerre avec la Fondation est terminée. Et en ce moment même, Siwena se révolte. Regardez l'article, voyez-vous-même.
Son ton se faisait déjà songeur.
Nous allons nous arrêter dans une des provinces pour avoir les derniers détails. « Si vous le permettez, je vais faire un petit somme à présent. »
Ce qu'il fit. Par hypersauts de plus en plus espacés, le vaisseau marchand traversa la galaxie en direction de la Fondation.